nous sommes le jeudi 21 mars 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Très content de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin au Sénégal, un des 19 candidats à la présidentielle se retire. En République centrafricaine, un an de prison requis contre un dirigeant de l'opposition. Libéré après 6 mois d'emprisonnement en RD Congo, Istanis Boujakira promet de poursuivre son travail de journaliste indépendant. Les États-Unis ont présenté un projet de résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, selon Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, actuellement en tournée au Moyen-Orient. Au Sénégal, Cheikh Tidiane Diaye, l'un des 19 candidats à la présidentielle de ce dimanche, a déclaré hier se retirer au profit de l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Michel Joseph.
Cheikh Tidiane Diaye a rappelé devant la presse qu'il était l'allié du parti de M. Faye et de son guide Ousmane Sonko au sein de la coalition d'opposition Yewi Askanoui, Libérons le peuple, créée en 2021. Il a inscrit sa candidature et quelques autres du même bord dans une ligne de défense devant parer la possible disqualification de M. Sonko, devenue réalité entre-temps. La candidature de Bassirou Diomaye Faye, relevant de la même tactique, a en revanche été validée. J'appelle tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi, à porter leur vote et leur voix sur le candidat Bassirou Diomaye Faye, affirme Cheikh Tidiane Diaye dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Je retire donc ma candidature à l'élection afin d'éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet, ajoute-t-il. La Constitution du Sénégal dit qu'en cas de retrait d'un des candidats avant le premier tour, l'élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats. La date du scrutin est maintenue, dit-elle.
En Guinée, le tribunal qui juge le procès historique d'un massacre commis en 2009 a décidé hier de remettre au moment du jugement une éventuelle requalification des faits en crime contre l'humanité. Le juge Ibrahima Tunkara a renvoyé le procès au 25 mars prochain avec le début des confrontations. L'ancien dictateur Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux répondent depuis septembre 2022 devant un tribunal du massacre du 28 septembre 2009. En République démocratique du Congo, le journaliste Istanis Boujakira, qui a été libéré mardi soir après 6 mois derrière les barreaux, a retrouvé ses collègues hier. Antoine Bolamba.
Ma place n'était pas en prison, ma place était dans ma rédaction, a-t-il lancé à ses confrères, qui l'ont accueilli avec des cris de joie et des vuvuzelas. Istanis Boujakira a salué la mobilisation autour de son cas, remercié toutes les organisations de défense des droits des journalistes qui l'ont soutenu. L'homme de 33 ans a promis de poursuivre son travail de journaliste indépendant. Istanis Boujakira a été arrêté en septembre, jugé et condamné lundi à 6 mois de prison, une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive. Il est sorti de prison mardi et a rejoint mercredi la rédaction du journal en ligne actualité.cd dont il est directeur de publication adjoint. Il était accusé, entre autres, d'avoir produit un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans la mort de Chérubin Okendé, un opposant retrouvé mort en juillet dernier et dont les obsèques ont eu lieu hier à Kinshasa.
En République centrafricaine, un an d'emprisonnement a été requis hier par le parquet de Bangui à l'encontre de Krepemboli Gumba, coordinateur de la principale plateforme de l'opposition, jugé pour diffamation et outrage à magistrat. Le procureur réclame également qu'il verse à chaque partie civile pour réparation une somme de 125 millions de francs CFA, soit plus de 208 000 dollars pour chacun des 4 magistrats concernés par l'affaire. L'accusé, avocat de profession, a choisi lors de cette première journée de procès de se défendre seul, condamnant les conditions qu'il qualifie d'illégales de son arrestation, sans toutefois répondre aux questions du ministère public. Je ne répondrai plus à aucune question et j'attends ma condamnation. Je ne veux pas légaliser l'illégal, a-t-il déclaré devant la cour lors d'une brève prise de parole. Le verdict est attendu le 27 mars prochain. Un sommet se tiendra à Paris le 20 juin prochain pour soutenir la production de vaccins en Afrique. Objectif, contribuer à la souveraineté sanitaire de ce continent, selon le gouvernement français. Claire Morin-Gibourg.
L'annonce a été faite dans le cadre du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne en matière de santé. La France va accueillir avec l'Union africaine et Gavi, l'Alliance du vaccin, un sommet pour l'équité vaccinale et la production régionale de vaccins en Afrique, a annoncé hier Chrysoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État française au développement. Nous sommes déterminés à favoriser l'accès équitable à la santé, a ajouté Madame Zakharopoulou. Hier, la Commission européenne a annoncé plusieurs initiatives d'un montant total de 510 millions d'euros pour renforcer les systèmes de santé et la protection sociale en Afrique. La question de l'inégalité de l'accès aux vaccins a été relancée par la pandémie de Covid. Après avoir participé au mécanisme COVAX visant à fournir des vaccins aux pays les plus pauvres, l'Union européenne a investi 1,3 milliard d'euros dans la production locale de vaccins en Afrique. Des hubs de production de vaccins ont été créés en Afrique du Sud, au Rwanda et au Sénégal.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain déclare que les États-Unis ont présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU demandant un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages dans la bande de Gaza dans un entretien à un média saoudien. Nous avons en fait soumis une résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages et nous espérons vivement que les pays la soutiendront, a dit hier soir Anthony Blinken aux médias à la date en marge d'un voyage dans le royaume saoudien. Il a ajouté espérer que cela envoie un signal fort. Le patron de la diplomatie américaine effectue cette semaine une nouvelle tournée au Moyen-Orient axée sur les efforts en faveur d'une trêve humanitaire à Gaza et qui le mènera également en Égypte et en Israël. Les pourparlers en vue de former des autorités de transition en Haïti progressent, tandis que les violences se poursuivent près de Port-au-Prince, où sévissent des gangs armés. Nanit Talani.
Les discussions continuent. Je suis sûre que cela prendra un peu de temps, mais d'après toutes les indications, ça avance, a dit la représentante du Guyana auprès de l'ONU, Caroline Rodriguez-Birquette, interrogée sur les pourparlers pour la mise en place du Conseil présidentiel de transition devant prendre les rênes de Haïti. Il doit être composé de représentants de partis politiques haïtiens et de la société civile. De son côté, une source au sein du gouvernement haïtien a confié que pour le moment, aucune liste n'a été communiquée au premier ministre démissionnaire, Ariel Henry. Depuis l'assassinat de son dernier chef d'État, Jovenel Moïse, en 2021, Haïti est sans président ni parlement et n'a connu aucune élection depuis 2016. Ariel Henry n'a pas pu regagner son pays après un déplacement au Kenya. Il a accepté de démissionner le 11 mars. Les États-Unis ont évacué mercredi une quinzaine de leurs citoyens de Port-au-Prince, ravagés par la violence, et d'autres évacuations sont attendues tant que la crise persiste, a indiqué le département d'État.
Le président américain Joe Biden, en campagne pour un second mandat, a dévoilé hier un coup de pouce de près de 20 milliards de dollars pour permettre au géant américain des semi-conducteurs, Intel, d'augmenter sa production aux États-Unis. Les amis, il était temps, nous avons inventé les composants électroniques les plus sophistiqués, mais aujourd'hui nous en fabriquons 0% parce que cette industrie a été délocalisée en Asie, a déploré le président Biden dans un discours à Chandler, en Arizona. Nous allons permettre à la production des semi-conducteurs les plus sophistiqués de faire son grand retour, a promis le démocrate de 81 ans qui se présente comme le champion de la réindustrialisation et le défenseur de l'emploi manufacturier. L'Amérique ne laissera pas ses concurrents prendre le dessus, a promis Joe Biden à l'heure où les États-Unis et la Chine mettent une compétition sans merci. Il s'agit du montant le plus élevé rendu public à ce jour par le gouvernement américain pour contrer la puissance chinoise. En Ukraine, de fortes explosions retentissent ce matin à Kiev. Après une alerte aérienne pour des missiles et des drones lancés par la Russie, Vitali Klitschko, le maire de Kiev, a fait état de débris de roquettes tombés dans certains quartiers de la capitale, notamment sur un immeuble résidentiel et avec des voitures en feu. Les dernières frappes russes d'ampleur sur la capitale ukrainienne avaient eu lieu fin janvier. Hier, l'Ukraine et la Russie ont fait état de frappes ayant provoqué la mort de plusieurs civils de chaque côté de leur frontière commune, où les bombardements se sont multipliés ces derniers temps, poussant Vladimir Poutine à promettre d'assurer la sécurité dans les régions russes visées. Le Royaume-Uni et l'Australie ont signé un nouvel accord de défense à Canberra aujourd'hui, ouvrant la voie à l'accueil mutuel de troupes et qui doit relancer leur alliance avec les États-Unis sur des sous-marins à propulsion nucléaire. Aux côtés des États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni sont membres de la jeune alliance de défense AUKUS, un pacte visant à freiner l'expansion militaire chinoise dans la région Asie-Pacifique. Voilà pour le journal, sans transition, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Maroc et l'Agence française de développement ont signé un accord de financement de 134,7 millions d'euros pour soutenir les réformes dans le secteur de l'éducation sur 5 ans. Le programme vise à réduire le taux de décrochage scolaire en renforçant les compétences des enseignants. Il prévoit aussi d'améliorer les services de cantine et de transport scolaire. La réforme éducative 2022-2026 vise à réduire le taux d'abandon d'au moins 30% en mettant l'accent sur les zones rurales. La Banque mondiale va accorder plus de 6 milliards de dollars de financement sur 3 ans à l'Égypte pour soutenir son développement économique. 3 milliards sont destinés au programme du gouvernement et l'autre moitié au secteur privé. Les financements doivent se concentrer sur l'accroissement des opportunités pour le secteur privé, le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques et l'amélioration de la gestion des ressources publiques. Le Johannesburg Stock Exchange prévoit l'admission d'une dizaine de nouvelles entreprises en 2024, a indiqué Leila Fouré, directrice de la plus grande place boursière africaine. La plupart des entreprises qui rejoindront la cote du JSE cette année devraient être issues d'opérations de scission.
À présent, nous retrouvons Nanit Talami pour les sports. Bonjour Nanit.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Plusieurs matchs amicaux sont au programme ce jeudi et demain vendredi pour les sélections africaines.
Il s'agit des matchs amicaux, certes, mais qui donneront l'occasion de voir les prestations des sélections africaines sur le continent et ailleurs. Demain, 22 mars, le Sénégal jouera contre le Gabon à Amiens en France et 4 jours plus tard contre le Bénin. Vice-champion d'Afrique en titre, le Nigeria jouera contre le Ghana à Marrakech au Maroc. L'Algérie reçoit la Bolivie à Alger. Le Maroc disputera son match à domicile contre l'Angola. L'Égypte va affronter la Nouvelle-Zélande, Madagascar, le Burundi. Le Burkina Faso s'opposera à la Libye, le Botswana au Rwanda, la Mauritanie au Mali, le Niger au Togo et l'Ouganda aux Comores. Ce jeudi, aujourd'hui au programme, ce sera la Guinée, Vanuatu, Éthiopie, Lesotho, Cap-Vert, Guyane et enfin Afrique du Sud, Andorre.
Au Nigeria, Victor Osimhen sera indisponible pour les prochains matchs des Super Eagles.
Le Nigeria sera en effet privé de son joueur vedette, Victor Osimhen, qui s'est déclaré forfait pour les 2 matchs amicaux programmés contre le Ghana et le Mali. L'attaquant de Naples souffre de l'inflammation d'une ancienne blessure. Taiwo Awoni, Gabriel Osho et Tyrone Eboyi sont également indisponibles. Pour le moment, la Fédération nigériane de football n'a annoncé aucun remplacement pour ses absences.
Également dans l'actualité sportive, Nanit, des perquisitions menées au siège de la Fédération espagnole de football à Las Rosas, en banlieue de Madrid, et dans d'autres endroits dans le cadre d'une affaire de corruption présumée.
En tout cas, Jacques, selon des sources judiciaires, il s'agit d'une enquête concernant des actes criminels présumés de corruption et de blanchiment d'argent, notamment pour des irrégularités dans les contrats ayant permis l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, signée par Luis Rubiales, l'ex-président de la RFF. Le Royaume saoudien accueille depuis 2020 les demi-finales et la finale de la Supercoupe d'Espagne, moyennant quelques 40 millions d'euros par an après un accord où la société Cosmos, de l'ex-défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué, a servi d'intermédiaire. L'opération devrait aboutir à cette arrestation et à l'inculpation de 5 autres personnes. Ces perquisitions ont lieu en plein rassemblement de la sélection nationale espagnole qui s'entraîne actuellement en vue de ces 2 matchs amicaux contre la Colombie demain vendredi et le Brésil mardi.
Merci bien, Anit.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, en ce jeudi 21 mars 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt, Cheikh Tidiane Diaye, l'un des 19 concurrents à la présidentielle de ce dimanche au Sénégal, a indiqué hier à se retirer au profit du candidat Bassirou Diomaye Faye, 43 ans, tête d'affiche de l'opposition anti-système, mais aussi le second à la tête du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui lui a été disqualifié. Amadou Ba, adoubé par l'actuel chef de l'État Macky Sall pour porter les couleurs de la coalition gouvernementale, et Bassirou Diomaye Faye sont perçus comme les 2 favoris du scrutin. Chacun des 2 hommes réserve à l'autre ses plus vives critiques. Ce matin, Blanche Sanou nous dresse le portrait de Bassirou Diomaye Faye.
Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko, est l'un des principaux prétendants à la présidence au Sénégal. Il organise une série de rassemblements dans le cadre de sa campagne électorale. Il a souligné son intention d'introduire une monnaie nationale pour remplacer le franc CFA hérité de la colonisation française et de mettre en œuvre l'enseignement de l'anglais dans les écoles où le français est la langue officielle. Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidence.
Ne doit pas accepter autour de certaines questions qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire.
Bassirou Diomaye Faye, libéré de la prison, affirme qu'il va réformer les institutions en limitant les pouvoirs du président, en créant une vice-présidence et en réformant le code pénal pour le rendre conforme aux valeurs et besoins actuels. Écoutons Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidence.
Il faut réduire les pouvoirs du président de la République, donner plus de prérogatives au premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire.
Faye affirme aussi qu'il va renégocier les contrats miniers et d'hydrocarbures et réévaluer les accords de pêche et de défense. Pour sa part, Ousmane Sonko, leader du PASTEF, un parti dissous au Sénégal, s'est engagé à aider son équipe à remporter l'élection présidentielle, même s'il est exclu du scrutin et s'est lancé dans la campagne depuis sa sortie de prison. Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise.
Ce qui doit se faire, se fera. Donc, c'est pour dire que nous ne considérons pas les choses. La seule victoire, ce n'est même pas quand on va gagner le 24, Inch'Allah. C'est à la fin de notre premier mandat. Et on verra quelle appréciation les Sénégalais font de ce qu'on a fait.
Durant leur campagne, l'équipe Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, a réitéré certains de leurs thèmes favoris, comme la nécessité de lutter contre la corruption et protéger l'économie sénégalaise de l'influence des puissances étrangères.
102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Nous vous le rapportions hier matin, le journaliste congolais Stanis Boujakera a été libéré mardi soir après avoir été arrêté en septembre dernier, jugé et condamné lundi à 6 mois de prison, une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive. Il était accusé, entre autres, d'avoir produit un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant chérubin Okendi. Eddie Sango a joint à Kinshasa l'un des avocats de Stanis Boujakira. Il s'agit de maître Jean-Marie Kabengila. Nous l'écoutons.
Notre client Stanislas Boujakira Tiamala est libre depuis hier à 22h. Il est maintenant chez lui.
Mais pourquoi a-t-il été libéré à ces heures tardives? Est-ce que la loi congolaise permet cela?
Oui, non. La loi congolaise permet que pour la remise en liberté d'une personne, quel que soit le moment où la liberté lui est reconnue, de redevenir libre.
Nous avons appris qu'il y aurait un appel du ministère public. Qu'est-ce qui va se passer si cet appel était confirmé?
Si l'appel est confirmé, il revient à la juridiction saisie d'appel de fixer l'affaire pour inviter les partis à présenter leurs moyens au niveau de l'appel. Quand bien même il y aurait appel, le prévenu recevra, en le cas où le premier juge l'a placé, a fixé le motif. Quand bien même il est condamné, tant qu'il court le délai d'appel, tant que le juge d'appel n'aurait pas vidé sa saisine jusqu'en cassation, la personne condamnée reste sous le statut de prévenu. Il n'est pas définitivement condamné.
Stanis Boujakira sort de la prison, mais il a été condamné à 6 mois de prison. Qu'est-ce qui explique cela?
C'est parce qu'il avait déjà fait plus de temps que 6 mois en détention. Et le temps de détention a toujours été compté parmi le temps de condamnation.
Les journalistes ont été condamnés pour un document qui est relatif au décès ou à l'assassinat de M. Chérubin Okendi qu'on enterre aujourd'hui. Il a été déclaré que c'était un suicide. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Notre plan n'est ni de loin impliqué dans cette affaire. Il n'est pas le magistrat enquêteur pour avoir une opinion sur les raisons, le mode de meurtre ou d'assassinat de suicide de M. Chérubin Okendi. Et donc, il est très loin de la piste de ce qui est investigué. Et donc, il ne peut ni contribuer ni confirmer les enquêtes du parquet.
Et les documents en question, en était-il l'auteur ou en était-il celui qui l'a divulgué? C'était un vrai document ou pas?
Les enquêtes, justement, les expertises du ministère public ainsi que celles du tribunal ont démontré que l'ordinateur de notre client n'a pas fabriqué le document, que ses téléphones n'ont pas reçu le document et n'ont pas non plus transmis le document.
Maître Jean-Marie Kabengila, avocat de Stanis Boujakira, directeur de publication adjoint du journal en ligne actualité.cd en RD Congo.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Kisangani sur 97.7 FM.
La crise sécuritaire au Burkina Faso a des répercussions sur l'économie du pays, touchant divers secteurs, dont celui de l'exportation du bétail. Exemple, dans la région de la boucle du Mouhoun, fortement affectée par le terrorisme, l'accès à la viande est devenu extrêmement difficile. Gilles Dasda, l'un de nos correspondants, s'est rendu dans la zone pour voir de plus près cette situation jugée alarmante au-delà de la tragédie humaine que représentent les déplacements internes.
Au marché de bétail de Dédougou, communément appelé Garbal, les tractations sont en cours entre clients et vendeurs. Dans cette localité située dans une zone à fort défi sécuritaire à 230 km de Ouaga, réussir à vendre les animaux est le rêve de tous les vendeurs. Les bêtes se font de plus en plus rares. Au grand dam de Amidou Diallo, vendeur de bétail.
On a trop de soucis ici. Cela fait plus de 30 ans que je vends le bétail. Mais actuellement, personne ne peut aller dans les villages pour en payer au risque de ne pas revenir.
Au Garbal, le bétail arrive au compte-gouttes, surtout les petits ruminants. Rien à voir avec la période faste dont se souvient Victorien Yen, lui aussi vendeur de bétail.
Avant, on pouvait avoir une dizaine de têtes de petits ruminants à vendre par jour. Mais actuellement, on en reçoit deux ou trois au quotidien. On se débrouille avec cela. Ça se répercute sur le prix de la viande. Il était facile d'avoir 500 francs de viande. De nos jours, c'est de plus en plus difficile d'en avoir à ce prix-là.
À Dédougou, les femmes sont les premières à ressentir cette hausse des prix du coût de la viande au marché. Biba Koulibaly, ménagère, ne nous dira pas le contraire.
Auparavant, on payait la viande à 300 ou 500 francs. Actuellement, il faut minimum 1000 francs pour avoir de la viande fraîche. C'est vraiment difficile.
Et les complaintes des dames, les bouchers de Dédougou les ressentent au quotidien. Le prix de la viande augmente et ils n'y peuvent rien. C'est le cas de Bouba Guité, boucher, contraint par les faits.
Avant que certains villages ne soient déguerpis par les terroristes, tout allait bien. On se faisait des bénéfices. Actuellement, rien ne va plus. Les localités où nous partions payer le bétail ont été déguerpies et les habitants ont rejoint Dédougou. Les rares animaux que des vendeurs nous apportent sont trop chers. Les chèvres que nous achetons à 15 000 francs CFA coûtent 25 000 francs de nos jours. D'autres qui valaient 30 000 sont montés à 40 000, voire 45 000 actuellement.
Comme pour les autres intervenants de ce reportage, ce boucher n'a qu'une espérance en tête.
Notre prière est que le pays retrouve la paix. Tous ces problèmes sont dus à la crise sécuritaire.
Dédougou souffre depuis un certain temps de multiples difficultés, dont celle de l'approvisionnement en bétail et viande. Les populations espèrent un dénouement heureux. En attendant, elles prennent leur mal en patience face au coût des produits tels la viande qui continue de croître. Gildas Da, de retour de Dédougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La Journée internationale de la francophonie a été observée hier. Avec l'écrivain togolais Kossi Efoui, nous explorons les défis rencontrés par la plupart des élèves francophones dans l'apprentissage du français. Dans son dernier ouvrage, Une magie ordinaire, l'auteur relate ses souvenirs d'enfance et la punition infligée aux enfants qui parlaient le vernaculaire. Une punition sous la forme d'un symbole. Kossi Efoui nous décrit d'abord cet objet au micro d'Alexandrine Rolognon.
Cet objet, c'était un carré de peau de bouc, de peau de chèvre, de peau de mouton en tout cas. C'était un carré de peau d'animal domestique avec les poils dessus et puis une cordelette qui servait à l'accrocher au cou de l'élève et qui était surpris en train de dire quelques mots de sa langue maternelle. On était au cours primaire et on avait l'injonction d'apprendre à parler très rapidement la langue française. Et donc, la méthode utilisée, c'était juste les mêmes méthodes d'humiliation qui étaient utilisées en France, dans d'autres régions françaises, pour imposer la langue française. Et en Bretagne, par exemple, ça s'appelait le symbole. Et dans la cour de récréation, au Togo où j'étais, ça s'appelait le signal. Et l'élève qui l'avait était obligé de surveiller ses camarades et de accrocher cet objet donc au cou d'un autre camarade surpris en train de parler sa langue maternelle.
Comment ces expériences ont-elles façonné votre identité et votre perception de la langue française?
Disons que j'ai échappé à cette idéologie qui voudrait installer une hiérarchie entre les langues, qui supposait que la langue française était apte à exprimer des concepts scientifiques, à exprimer la poésie, et puis que ma langue maternelle était à jeter, quoi, pour dire les choses clairement. J'ai échappé à ce conditionnement par une expérience qui est celle de la traduction, et une autre expérience qui est celle de la rencontre avec les poètes. L'expérience de la traduction, c'est avec ma mère qui me demandait ce que j'avais appris à l'école, et j'étais en situation de traduire ce que j'apprenais dans la langue française. J'étais mise en situation par ma mère, qui ne parlait pas français, il faut le préciser, mise en situation de traduire en éveil ma langue maternelle, ce que j'apprenais dans la langue française. Et cette expérience de la traduction, évidemment, abolit de fait toute hiérarchie entre deux langues. Si on peut passer d'une langue à l'autre, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est qu'il y a équivalence possible, en tout cas. C'est ce que raconte la traduction et c'est l'expérience que j'ai vécue. La deuxième expérience, c'est celle de la rencontre avec les poètes. C'est de découvrir qu'on peut prendre en otage une langue pour en faire un moyen de domination, mais à l'intérieur de cette langue, Il y a d'autres visions du monde qui est portée par d'autres philosophes que ceux qui prônent la domination dans cette langue et qui est portée par des poètes essentiellement dans cette langue. Et ces deux expériences m'ont amené à un rapport, en ce qui me concerne, un rapport apaisé à la langue française.
Nous écoutions l'écrivain togolais Kossi Efouy. Et voilà, Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du jeudi 21 mars 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.